La construction historique d'une politique de la culture. Un podcast de l'Observatoire des politiques culturelles et du Comité d'histoire du ministère de la Culture. Une séquence proposée par Guy Saez. La faute à Rousseau, culture populaire et culture d'élite.
Deux conceptions de la politique de la culture, deux conceptions politiques de l'art. Voilà ce dont je vais parler maintenant en reprenant quelques éléments de la période révolutionnaire et de la période immédiatement postérieure pour bien montrer que ce qu'on appelle la construction d'une politique culturelle, fût-elle nationale, est quelque chose de complexe et que l'idée un peu simple que l'on aurait d'une politique qui se construit peu à peu sur les mêmes types de référents, les référents devenant de plus en plus importants, de plus en plus institutionnalisés, c'est peut-être une idée fausse. Alors, je commence par cette idée qu'il pourrait y avoir au cœur même de la construction de notre conception d'une politique de la culture, deux visions très différentes. Et pour démontrer en quoi consiste cette différence, je fais appel à Rousseau. La faute à Rousseau, disait Victor Hugo. Oui, dans la mesure où Rousseau introduit un débat qui n'a pas fini de nous concerner, de nous intéresser, de nous diviser, peut-être, et qui, aujourd'hui encore, est un problème que les politiques culturelles ne savent pas vraiment traiter. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, dans les années d'avant la Révolution, quelques décennies avant la Révolution, les bourgeois de Genève interpellent le philosophe d'Alembert, celui qui est responsable avec Diderot de l'encyclopédie, et lui demande, comme il le demanderait à un moderne consultant d'une agence de publicité aujourd'hui, ou de conseil en marketing territorial, est-ce que ce serait intéressant que la ville de Genève se dote d'un théâtre ? Elle n'a pas de théâtre à l'époque. Et d'Alembert répond, dans une lettre aux bourgeois du gouvernement de Genève, « Ah, bien sûr, ce serait vraiment une excellente idée, car le théâtre vous amènerait une attractivité nouvelle pour votre ville. Les gens viendraient à Genève non seulement pour faire des affaires, mais aussi pour se divertir. Donc ce serait un emblème intéressant. Mais aussi, vos propres Genevois, ils vont se raffiner, s'affiner au contact de l'art. » Car enfin, ce sont des commerçants et ils ont besoin effectivement de ce commerce avec l'art pour acquérir tous les atours du raffinement culturel tel qu'on peut le voir dans les grandes capitales. Lorsque Rousseau lit cette lettre, il devient fou de rage et il écrit une réponse, qui est cette fameuse lettre à d'Alembert, dans laquelle il va contester point par point les arguments de d'Alembert en disant « Les Genevois sont des gens simples, sont des gens industrieux, sont des gens travailleurs, sont des gens du peuple. Et le théâtre, si on le met, si on en fait une institution de la ville, eh bien ça va gâter ces caractères du peuple de Genève. Car le théâtre montre sur la scène des choses horribles, montre sur la scène des valeurs, des problèmes dont on devrait se dégager, dont on ne devrait pas parler. Et en fait, loin d'être la purgation des passions dont on parle quelquefois, le théâtre pourrait même inciter à une certaine dérive ou débauche morale. Donc c'est une condamnation absolue du théâtre et de l'art théâtral en général. Mais à la place, dit Rousseau, moi je sais ce qu'il faut au peuple de Genève. Au peuple de Genève, il lui faut des fêtes. Il lui faut des kermesses. Il lui faut des chants. Il lui faut des danses. Il lui faut ces chants et ces danses populaires. Il faut qu'ils se retrouvent et qu'ils puissent aller dans la joie, s'exprimer, se retrouver, communier. Et il ne peut le faire qu'autour de choses qu'il connaît bien et qui sont dans sa tradition. Voilà donc cette idée introduite par Rousseau, qu'il y a une culture populaire spécifique et que cette culture populaire suffit au peuple et que la culture de l'élite ne lui est pas destinée. Et donc c'est quand même une affirmation extrêmement forte et qui joue sur ce qu'on va appeler ensuite l'expressivité. Le peuple doit pouvoir s'exprimer, il doit pouvoir laisser libre cours à son expressivité, même si cette expressivité est totalement dénuée de qualité artistique. Puisque dans la kermesse, dans les mats de cocagne, dans les chants et dans les danses, il y a bien une composante artistique, mais personne n'y fait vraiment attention. Ce qui est premier, c'est le fait de pouvoir libérer son énergie, de pouvoir être ensemble, de pouvoir communier dans un collectif. Et donc ça, c'est une conception que l'on va retrouver pratiquement aussi là tout le long du XIXe siècle et du XXe siècle. Et quand on regarde un peu ce que sont aujourd'hui, par exemple, des formes d'animation culturelle, des formes de participation culturelle, ce qu'on a appelé la démocratie culturelle, c'est-à-dire la capacité de chacun de s'exprimer culturellement sans avoir forcément le recours d'une éducation artistique bien classique, eh bien, on retrouve ici cette tension que Rousseau a voulu marquer. Donc voilà pour la première alternative à une politique de la culture de l'élite, telle que Rousseau l'a théorisée d'une certaine façon. Et d'ailleurs, la Révolution va s'en souvenir, puisque, au fond, l'un des grands, et peut-être même le seul souvenir culturel marquant pour l'ensemble de la nation d'une politique culturelle de la Révolution française, c'est la fête de la Fédération. C'est une fête. C'est une grande fête. Alors, elle est organisée, évidemment, non pas comme une fête populaire, elle est organisée avec un programme extrêmement chargé, extrêmement précis. Mais c'est une fête qui est offerte au peuple, et c'est une fête dont le retentissement va être très, très important dans toute l'histoire, à tel point qu'à plusieurs reprises dans notre histoire, notamment au moment de l'effervescence populaire, je pense par exemple au Front populaire ou à la Libération, on a voulu retrouver cette inspiration de la fête de la Fédération. Et avec évidemment des modifications, des changements. Le changement le plus important ayant été celui du bicentenaire, le défilé du bicentenaire de la Révolution française, avec ce fameux défilé post-moderne qui a tant fait parler à ce moment-là. La deuxième alternative culturelle, c'est de s'interroger sur ce terme de construction nationale des politiques culturelles. Une historienne, Anne-Marie Thiès, a écrit « Il n'y a rien de plus international que la construction des politiques nationales ». Et ça me semble effectivement tout à fait intéressant de montrer que dans l'évolution des conceptions de la politique de la culture, il y a des emprunts, des transferts culturels qui se sont produits. Et je voudrais montrer d'abord comment se construisent justement ces oppositions entre des traditions nationales, en prenant l'exemple de ce qu'on pourrait appeler une idéologie française et puis une idéologie allemande. Le terme français et allemand sont apparemment ici un peu contradictoires avec ce que je viens de dire sur l'internationalisation des constructions culturelles, mais ce sont peut-être des conventions qu'on peut garder un moment, parce que je vais aussi essayer de montrer comment elles vont s'interpénétrer. La première chose intéressante à dire sur la construction nationale, c'est que française, c'est que il y a une série de concepts qui sont toujours aujourd'hui d'ailleurs au fronton de la République, même si de temps en temps ils sont mis en défaut ou mis en critique, comme par exemple l'universalisme. Les Français ne font pas la révolution pour eux-mêmes, ils la font pour le monde entier. Ils veulent libérer l'ensemble des peuples de l'oppression monarchique. C'est une révolution qui est fondée sur un optimisme, c'est un dynamisme nouveau, un dynamisme du peuple, et puis un dynamisme aussi du progrès. Il ne faut pas oublier les lumières du XVIIIe siècle ne sont pas simplement des lumières littéraires, ce sont aussi des lumières scientifiques. Et il y a autour des grands scientifiques comme Laplace, Lavoisier et d'autres, ce sentiment d'un progrès. Un progrès que Condorcet, qui est peut-être l'un des plus révérés personnages de la Révolution française, va théoriser dans son tableau historique des progrès de l'esprit humain. Et puis aussi une forme de pédagogisme. Et là aussi, c'est Condorcet qui est à la manœuvre, puisqu'il a écrit des mémoires sur l'instruction publique. Il a même proposé un décret sur l'organisation de l'instruction publique, qui sont aujourd'hui considérés comme les bases fondamentales de tout notre système éducatif, non seulement de l'école, mais aussi de l'éducation permanente, mais aussi de l'animation. Donc un pédagogisme qui consiste à dire que le peuple doit être enseigné par des savants, des sachants, et que ceci doit se faire pour tout le monde, pour tous les petits Français, de la même façon, du matin au soir, toute la semaine et toute l'année, avec le même programme. C'est une idée, évidemment, un peu nouvelle, qui est une forme aussi de rationalisme. C'est une manière de considérer que les choses politiques et les choses humaines doivent être considérées à travers l'exercice de la raison. Là aussi, on revient à ce qu'a été le message des Lumières. Et puis, dernier point, une forme de sécularisme. Alors, on ne dit pas encore laïcité, puisque le terme n'est pas employé, mais ce sécularisme vient à point pour combattre les croyances spirituelles de l'époque, et particulièrement, évidemment, pour combattre l'Église, le rôle de l'Église. Et dans son mémoire sur l'instruction publique, Condorcet dit très bien qu'il ne peut y avoir d'instruction religieuse à l'école. C'est absolument impossible. Et donc l'instruction de l'école doit être une instruction universelle et fondée sur la science et une éducation morale qui ne doit pas faire sa place aux croyances, quelles qu'elles soient. De l'autre côté, alors, Condorcet a écrit ses textes au moment de la Révolution, et le dernier, tableau historique de l'esprit humain, est paru en 95, il a été écrit quelques années avant. En même temps, exactement en même temps, en Allemagne, un philosophe, qui est aussi un grand dramaturge, Friedrich Schiller, écrit un livre qui s'intitule « Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme ». Et dans ce livre, Schiller fait une analyse et une évaluation des échecs de la Révolution française. pourquoi, au fond, la Révolution française n'a pas réussi? Pourquoi la terreur? Pourquoi le sang a coulé si abondamment? Et pourquoi, finalement, cette révolution est en train de s'acheminer vers... alors, il écrit ça en 1794, on n'est pas encore dans la période autoritaire de Thermidor et napoléonienne, mais il pressent que la révolution ne peut pas aller au bout de ses projets, de ses rêves. Et il essaie de trouver une explication. Et l'explication est la suivante. Il dit « Les Français sont comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire un peuple qu'il faut enseigner de là-haut, d'une manière qui ne fait absolument pas référence à sa sensibilité, qui ne met pas en œuvre les arts, qui refuse finalement tout un pan de la personnalité. » Et Schiller propose à la place une version tout à fait nouvelle qui consiste à dire une nation ou un programme politique, un projet politique, ne peut aller au bout de ce projet que si le beau en devient une valeur fondamentale. Bien sûr, la poursuite de la justice, du juste, la poursuite de la rectitude morale, le bien, ceci sont des valeurs très importantes, mais elles ne prennent leur sens que si elles sont informées, travaillées par le sens de l'esthétique, par le beau. C'est la raison pour laquelle il dit « la bonne société ne pourra exister que lorsque les hommes eux-mêmes auront été transformés par cette ascèse ou ce travail sur eux-mêmes » autour de l'artistique, autour des valeurs de l'esthétique. Et donc, il faut commencer avec les jeunes enfants très 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 vite. Et il faut commencer par le jeu, par exemple. Et là, il nous donne une sorte de ligne qu'on pourrait appeler aujourd'hui la quête du sens, une ligne très profondément individualiste qui s'oppose beaucoup... à cette conception française que j'ai indiquée tout à l'heure et qu'on pourrait appeler une conception de la cohésion sociale. Le but général recherché par une éducation, c'est la cohésion sociale. Et on le répète encore aujourd'hui. Alors que pour Schiller, le but de la cohésion sociale est sans doute intéressant, mais il est très lointain. Et ce qui est important, c'est d'abord le chemin par l'éducation artistique. Et alors, aujourd'hui, on découvre que l'éducation artistique devrait être notre première politique culturelle. Et on demande non seulement à l'enseignement artistique, mais aussi à toutes les institutions culturelles de participer à cette éducation artistique parce que l'on pense qu'elle elle recèle des éléments, justement, d'authenticité, de valorisation de soi-même, d'expression de soi-même, qui permettent peut-être d'être un meilleur citoyen.